coûteux, plus on fait pression, plus on suscite de résistance. Seconde règle en matière de modélisation, plus on fait pression, plus on suscite de résistance. Elle repose sur des fondements établis par la recherche en psychologie il y a près d'un demi-siècle. En 1966, le psychologue Jack Brehm découvre ce qu'il appelle le principe de réactance. Dès lors qu'un individu perçoit l'une de ses libertés comme menacée ou abolie, il tente à déployer un effort pour la reconquérir. Plus nous avons l'impression que quelque chose nous est inaccessible ou interdit, plus nous considérons cette chose comme désirable ou attractive. À l'inverse, plus nous nous sentons incités à croire ou faire quelque chose, plus nous avons tendance à la rejeter. Des études ultérieures ont affiné ces premiers résultats de recherche en étudiant dans quelle mesure la formalisation d'un message pouvait avoir un impact sur la réactance. Les résultats sont explicites. Si les demandes sont exprimées de manière trop assertive, si elles ne laissent aucune possibilité de refuser ou ne proposent aucune alternative, les individus tendent à se sentir sous pression et à tout faire pour les rejeter. Lorsqu'elle est excessive, la volonté de conviction devient contre-productive. Quelles seraient alors les solutions efficaces pour amener les individus à faire ce que nous leur proposons? Les recherches en distinguent au moins trois. Tout d'abord, la modalisation du discours tend à réduire la réactance. Peut-être, tu pourrais, il me semble. Il en va de même pour le fait de proposer des alternatives aux auditeurs plutôt que de les laisser désemparés face à une seule et unique option. Enfin, le simple fait de souligner explicitement la liberté de nos interlocuteurs à l'issue de notre demande améliore les chances qu'ils y consentent. Tu es libre de refuser, c'est toi qui décides, je comprends si cela ne te convient pas. Étude de cas. Je suis manager au sein d'un grand fonds d'investissement, une entreprise très riche donc. La présidente du groupe vient de me confier une mission, organiser le séminaire annuel des cadres. Officiellement, cet événement doit permettre de réfléchir aux orientations stratégiques pour l'année à venir. Officieusement, il est surtout l'occasion de festoyer avec les collègues dans des endroits sublimes. Désireux de ne pas faillir à ma réputation d'inégalable bambocheur, je planifie un séminaire de rêve aux Açores. Plage, soleil, randonnée, hôtel, boîte de nuit privatisée. Tout est parfait, à un détail près, le budget que je dépasse allègrement. Au fond de moi, je sais très bien que l'entreprise a les finances pour se le permettre. Mais je sens aussi que ma présidente ne me laissera pas m'en tirer aussi facilement. Je prends donc le temps d'élaborer un deuxième scénario, respectueux des limites qui m'ont été données, un week-end de nature et randonnée dans le sud de la France. Lorsque je vais voir ma présidente, je lui présente ainsi la situation. « Bon, j'ai deux options à te proposer. La première est vraiment bien et pile dans le budget. La seconde est incroyable, mais on dépasse un peu l'enveloppe. Bien sûr, c'est toi qui décides. » Après que j'ai exposé en détail mes deux scénarios, elle laisse planer un silence de quelques secondes, puis esquisse un sourire. Bon, les Açores tout de même, c'est tentant. Je souris à mon tour. Ma réputation est sauve. Décryptage. Cet exemple illustre bien le paradoxe de la réactance. Si nous nous étions présentés face à notre interlocutrice avec, pour seule proposition, une option dépassant son budget, elle aurait probablement exigé par contre-coup que nous revoyions notre copie. C'est précisément parce qu'elle s'est sentie libre de refuser qu'elle a pu accepter de bonne grâce la proposition vers laquelle, en réalité, nous l'avons guidée. Il faut prendre conscience de ce que ces études impliquent pour la rhétorique. Sur le plan de la modalisation, tout d'abord, nous n'avons d'autre choix que d'évoluer sur une fine ligne de crête. Si nous ne sommes pas assez assertifs, nous paraissons insuffisamment convaincus et échouons à vaincre les réticences. Si nous sommes trop assertifs, nous donnons le sentiment de faire pression et suscitons de la résistance. Dans un cas comme dans l'autre, nous échouons à convaincre. Il nous faudra donc en permanence chercher le point d'équilibre entre ces deux exigences contraires. Un compromis d'autant plus délicat à trouver qu'il dépendra toujours de la situation dans laquelle nous nous trouverons, de la position que nous aurons à défendre et des individus qu'il nous faudra convaincre. Mais au-delà, sur le plan plus général, il est crucial de prendre pleinement conscience du phénomène de réactance. Qu'il est ardu, en effet, de réfréner notre entrain. Plus une cause nous tient à cœur et plus nous avons tendance à la défendre avec ferveur, plus nous sommes attachés à notre position et plus nous allons vouloir faire pression avec les conséquences délétères que l'on sait. Autrement dit, c'est quand nous avons le plus besoin de convaincre que nous risquons d'être le moins convaincants. Gardons cela en permanence à l'esprit. En rhétorique, nous sommes parfois notre pire ennemi. 3. L'art de formuler les demandes. La question de la modalisation se pose de manière critique dans un cas spécifique, mais quotidien, lorsque nous avons à exprimer une demande auprès d'un interlocuteur. Une situation difficile en réalité. Elle implique de nous confronter au risque du refus et à toutes les peurs qu'il charrie, celle de déplaire, froisser, mécontenter, de passer pour un sans-gêne, un importun, un effronté, en un mot, d'être rejeté. Pour calmer ces craintes, nous pouvons facilement nous laisser aller à surmodaliser notre énoncé. Par exemple, « Excusez-moi, monsieur le directeur, il y a un dernier point que j'aurais bien aimé éventuellement aborder avec vous. Après cette année où mes résultats ont été plutôt bons, pensez-vous qu'il serait possible d'envisager une petite augmentation de salaire ?» Ici, la demande est présentée comme très incertaine et très secondaire. Elle ne fait peser aucune pression sur notre interlocuteur qui n'aura aucune difficulté à nous répondre par la négative. Il aurait mieux valu nous faire plus assertifs. Monsieur le directeur, il y a un dernier point que je souhaite aborder et il me tient à cœur. Après cette belle année où tous mes résultats sont en hausse, pouvons-nous envisager une augmentation de salaire ? Pour notre interlocuteur, il sera déjà plus difficile de refuser. En formulant notre demande de manière appuyée et en la présentant comme importante, nous faisons cette fois planer une menace vague et implicite sur la discussion. Que se passera-t-il s'il refuse ? Accepterons-nous sa décision sans broncher ? Ou commencerons-nous à envisager des alternatives, par exemple chercher un emploi ailleurs ? Par un simple travail sur la modalisation, nous avons considérablement amélioré nos chances de faire accepter notre proposition. Notons que, dans cet exemple, il aurait été possible d'appuyer encore davantage notre demande. Par exemple, en supprimant totalement la forme interrogative. Après cette excellente année où tous mes résultats sont en hausse, je souhaiterais être augmenté. Voire, en utilisant une question avec présupposé, dans laquelle nous présentons comme acquis ce qu'il nous revient, précisément, de faire accepter. Après cette excellente année où tous mes résultats sont en hausse, pouvez-vous me dire de combien vous comptez m'augmenter ? Ces deux exemples sont encore plus assertifs que le précédent. A priori, il devrait donc encore augmenter nos chances d'obtenir satisfaction, n'est-ce pas ? Et pourtant non. Bien au contraire, ces formulations risquent de nous aliéner notre interlocuteur. En faisant peser sur lui trop de pression, nous suscitons sa résistance. Ici plus qu'ailleurs, nous marchons donc sur une corde tendue entre deux précipices, l'excès de modalisation d'un côté l'abus d'assertivité de l'autre. Un seul faux pas, et la conséquence serait fâcheuse, le rejet de notre demande sur le champ. 4. La rhétorique incantatoire. Dans le vocabulaire de la magie, l'incantation désigne la composante verbale d'un acte surnaturel. En prononçant, souvent de manière répétée, des formules magiques ou sacrées, l'incantateur parvient à transformer la réalité, à la plier à sa volonté. Dans le vocabulaire de la rhétorique, l'incantation désigne exactement la même chose. En tant qu'oratrices ou orateurs, nous sommes parfois confrontés à une situation délicate, celle de devoir faire accepter une idée ou une proposition sans être en capacité de la défendre. De quelque manière que nous le prenions, notre dossier nous semble trop fragile, nos raisonnements trop branlants, nos arguments trop peu convaincants. En somme, il nous faut parvenir à faire accepter l'inacceptable. La solution la plus simple consiste alors à faire fi de la réalité, à ne pas la décrire telle qu'elle est, mais telle que nous voudrions qu'elle soit. Ce qui semble très improbable, nous l'affirmons comme certain. Ce qui paraît en tout point douteux, nous l'avançons comme vrai. Ce qui n'est de toute évidence que secondaire, nous le présentons comme principal. Au fond, ce que nous ne parvenons pas à argumenter, nous nous contentons de l'asséner dans l'espoir de le créer. Plutôt que d'adapter notre volonté aux contraintes de la réalité, nous cherchons à transformer la réalité par la seule force de notre volonté. D'un point de vue technique, la rhétorique incantatoire se définit donc assez simplement. Elle n'est rien d'autre qu'un discours très assertif utilisé pour décrire une réalité beaucoup plus incertaine. Prenons un exemple historique. Le 18 juin 1940, alors que la France du maréchal Pétain vient de capituler face à l'Allemagne nazie et que tout espoir semble perdu, le général de Gaulle s'adresse aux Français depuis la radio de Londres. « La défaite est-elle définitive ? Non ! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. » Au moment où ce discours est prononcé, il semble y avoir peu de raisons d'être aussi optimiste. La France, encerclée par l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'Espagne franquiste, séparée de ses alliés et de ses colonies par les mers et l'océan, semble justement très seule. Pourtant, en répondant à l'appel du général de Gaulle, les résistants français contribuent à renverser le cours de la guerre. Ils rendent ainsi possible ce qui, le 18 juin 1940, paraissait très improbable. L'incantation est couronnée de succès. Étude de cas. Je suis le chef du service des urgences dans un grand hôpital parisien. Il y a quelques mois, nous avons dû faire face à la première vague d'épidémie de coronavirus qui a été une épreuve terrible pour toutes les équipes. Hélas, après un été où nous avons pu croire la maladie sous contrôle, le nombre de cas quotidiens repart désormais à la hausse. Il n'y a plus de doute, nous allons devoir affronter une seconde vague. Les soignants sont épuisés. Certains qui avaient attrapé la maladie s'en remettent à peine. Les investissements supplémentaires promis par le gouvernement ne sont pas arrivés. Dans le service, l'heure n'est pas à la mobilisation, mais plutôt au désespoir. Je décide donc de rassembler tout le personnel pour leur donner un discours d'encouragement. Les amis, nous allons y arriver. On a réussi à faire face une fois. On y arrivera à nouveau. La seconde vague sera moins éprouvante, vous verrez. Nous avons plus de moyens. Nous sommes bien mieux préparés. Et puis, le vaccin arrivera sans doute très vite. Bientôt, cette épidémie sera derrière nous. Autour de moi, les visages se sont faits plus sombres encore. Manifestement, mon discours n'a pas eu l'effet escompté. Décryptage. Nous venons de nous heurter aux limites du discours incantatoire. Faute de pouvoir adosser nos encouragements à de véritables arguments, nous nous sommes réfugiés derrière des formulations très assertives. Mais, hélas, personne n'est dupe. Les auditeurs sont parfaitement aptes à discerner la réalité derrière les mirages que nous leur faisons miroiter. Ils savent que notre discours n'est pas tissé de raison, mais d'illusion. La grande difficulté à laquelle nous confronte la rhétorique incantatoire, c'est donc celle de la distance entre le discours et les faits. Par hypothèse, cette distance existe, c'est la définition même de l'incantation. Mais si elle se fait trop grande, elle en devient criante. Plus aucun auditeur ne peut l'ignorer, pas même ceux qui, par optimisme ou désespoir, seraient prêts à se laisser bercer par une réalité enjolivée. Dans un étonnant paradoxe, l'incantation devient alors sa propre réfutation. En tant qu'oratrices ou orateurs, ne négligeons pas la puissance de la rhétorique incantatoire. Bien maîtrisée, savamment mesurée, elle est le matériau dont sont forgés les plus beaux discours mobilisateurs. Attention toutefois à ne pas en abuser. Face à une réalité dont personne n'ignore l'âpreté, la vérité crue se révèle parfois plus convaincante que les chimères. Par ailleurs, ne négligeons pas les dilemmes éthiques auxquels nous confronte ce procédé. Où se situe en effet la frontière entre l'incantation et le mensonge? Qu'est-ce qui sépare une tendance acceptable à l'exagération d'un recours discutable à la dissimulation? Autant de questions auxquelles nous seuls pouvons répondre en notre âme et conscience. En tant qu'auditrices ou auditeurs, prenons garde à ne pas nous faire prendre au piège d'un propos trop assertif. Il est parfaitement possible d'asséner avec beaucoup de vigueur des énoncés dépourvus de toute rigueur. Méfions-nous donc des excès de panache. Les individus les plus sûrs d'eux ne sont pas toujours ceux dont on peut être le plus sûr. Ce qui devrait gagner notre conviction, ce sont des arguments pertinents, pas des discours grandiloquents.